Mais on va ouvrir l'émission, si vous le voulez bien, avec un questionnement que j'ai, que vous avez sans doute. L'émergence de ce Delta comme variant, bien sûr. Alors que nous, ici au Québec, on se dit, et au Canada également, dans le groupe des G20, ce qui est très avantageusement positionné pour ce qui est de la prévention, de la vaccination, en fait, et des risques qui sont minimes. Est-ce que, cependant, la politique d'ouverture du 9 août prochain pour nos voisins du Sud, qui viennent ici, que l'on va accepter, pour des raisons économiques, bien sûr, est-ce que c'est un risque et un péril? Et en septembre, quand ce sera le reste de la planète qui viendra ici, est-ce que c'est un péril? Que doit-on faire? Pour nous en parler, je pense qu'il faut parler à la professeure de l'École de santé publique à l'Université de Montréal, Roxane Borges da Silva, qui va nous expliquer tout ça. Bonjour, Roxane Borges da Silva.
Bonjour, Monsieur Mongrain.
Alors, dites-moi donc, ce que je viens de proposer comme plan d'entrevue, c'est, je me questionne à savoir, tous les efforts que l'on a faits, la capacité et la réponse des gens pour la vaccination à travers le Canada, est-ce que nous prêtons flanc à une quatrième vague et est-ce que c'est péril en la demeure, le variant Delta, pour nous, ici, chez nous?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'état des connaissances actuellement, les études qui sortent montrent que la vaccination est somme toute très efficace, même pour le variant Delta. Donc, à partir du moment où on a deux doses de vaccin depuis plus qu'une semaine ou deux semaines même, on est protégé et on est très peu à risque non seulement de l'attraper, de le propager, mais également de développer des symptômes en lien avec le virus. Donc, dans le contexte, quand on autorise les Américains à rentrer au Canada et qu'on leur demande absolument d'avoir deux doses et également d'avoir un test négatif avant d'entrer au Canada, avant d'embarquer dans les avions, alors on s'assure on n'importera pas la COVID-19 parmi ces Américains au Canada. Donc, il y a un risque très très faible, mais c'est un risque calculé qui ne devrait pas apporter en fait d'éclosion au Canada ou d'augmentation de la transmission communautaire.
Là, vous m'avez parlé de la situation pour nos voisins du Sud. Est-ce qu'il en est de même pour l'ensemble des pays que nous accueillerons à compter de septembre?
Oui, en fait, pour l'instant, en l'état des connaissances, c'est ce qu'on peut dire. Mais vous savez, les connaissances évoluent très vite avec les variants qui évoluent également très, très vite. Donc, actuellement, importer, en fait, faire venir des gens au Canada qui ont deux doses et un test PCR négatif avant d'entrer dans l'avion est un risque très calculé et qui ne devrait pas produire, en l'état des connaissances, comme je dis, des éclosions au Canada.
On comprend l'exaspération de la population et on veut revenir le plus rapidement possible à une vie normale. Ça fait au-delà de 18 mois maintenant que nous sommes devant toutes sortes de contraintes et de modifications des règles. Oui, non, masque, moins de distance, plus de distance, lavage des mains, grand groupe, petit groupe et tout ce que l'on a entendu, évidemment, dans les mesures de sécurité et de prévention. Mais il demeure un fait. Est-ce que c'est pas prématuré que d'avoir ouvert est-ce qu'on n'aurait pas pu attendre encore deux mois ou trois mois? Je sais qu'il y a une question économique importante. Et est-ce que c'est plutôt à ce lobby-là, que l'on a obéi qu'à la santé générale de la population? Est-ce qu'on peut faire cette différence?
Mais en fait, vous avez raison, mais le politique doit tenir compte de toutes sortes de facteurs pour prendre des décisions. Évidemment, de la santé de la population, de la santé publique, mais également des impacts économiques et aussi des impacts sociaux. Et il ne faut pas non plus négliger aussi les impacts sur la santé mentale que causent toutes ces restrictions-là, et particulièrement au Canada, qui est une terre d'accueil d'immigration, où on a beaucoup de gens qui ont leur famille, qui vivent dans des pays étrangers. Donc, dans ce contexte, en mettant tous ces éléments-là et tous ces facteurs dans la balance, mais c'est peut-être une bonne idée à ce stade-ci, quand on a 50% de la population canadienne qui est vaccinée à deux doses, de pouvoir permettre aux gens en fait de revoir leur famille de revoir leur famille parce qu'ils ont vraiment été séparés pendant plus d'un an, plus de deux ans peut-être. Et par contre, ce qui est important aussi, c'est quand même de respecter certains gestes barrières et toujours de continuer à porter le masque, de garder la distance, se laver les mains régulièrement, en attendant que plus de la population canadienne ou québécoise soit vaccinée à deux doses.
Quand on regarde la situation et le portrait, on ne peut pas le regarder que de l'œil scientifique ou que de l'œil économique ou que de l'œil de l'opération générale d'une société. Il faut faire la balance des inconvénients. Donc, il y aura toujours un risque qui pend au-dessus de nos têtes dans cette affaire de COVID et dans la mutation. On en a pour des mois encore. Peut-être pas toujours sous la même règle, mais on en a pour des mois à être attentif et faire attention.
Absolument. On est tant qu'on n'aura pas toute la planète de vaccinés et qu'on n'aura pas donc une protection, une immunité collective planétaire, on va se retrouver avec ce risque de variants qui pourraient apparaître, qui soient plus résistants au vaccin et qui pourraient donc contaminer certains pays et se balader d'un pays à l'autre. Donc on n'est pas encore sorti de cette pandémie, mais on peut, avec la vaccination qui est bien avancée, considérer que le retour à une certaine normalité va être possible quand on aura 75% de notre population vaccinée à deux doses, au moins.
Je prends ici en exemple les délégations du monde qui s'en vont à Tokyo pour les Jeux olympiques. Il y a déjà 90 cas d'identifiés de COVID, alors que ces mesures-là sont certainement des mesures extrêmes parce que l'intérêt des athlètes, c'est de ne pas être contaminés. L'intérêt de l'organisation, c'est de tenir la manifestation. Et l'intérêt des commanditaires et de l'économie de la place, c'est que ça ait lieu. Il y a quand même 90 cas. C'est une inclusion importante pour une micro-société comme un village olympique. Et parallèlement à ça, vous me dites, il faut que la vaccination soit majoritairement faite, mais les pays pauvres n'en ont pas encore de vaccin. L'Afrique est en retard. L'Inde n'est pas là dans la quantité de vaccination. Alors, je me dis, on fait partie d'un village global. Sommes-nous en sécurité?
Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport aux Jeux olympiques, on a de nombreux athlètes qui viennent de différents pays pour lesquels la transmission communautaire est très variable. Je pense par exemple en Amérique du Sud où ils ont peu d'accès à la vaccination et beaucoup plus de transmission communautaire. Et donc en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la période d'incubation du virus varie de 2 à 14 jours. Donc un athlète peut partir de son pays avec un test négatif, puis finalement être porteur du virus et se rendre compte qu'une semaine après être arrivé. Donc c'est ce contexte-là qui fait que on n'est pas à l'abri même au village olympique. Il aurait fallu mettre tout le monde en quarantaine au moins deux semaines avant les Jeux au village olympique ou dans des espaces clos. Et c'est malheureusement difficile quand ces gens-là s'entraînent énormément et dans le contexte. Donc le village olympique est un peu le reflet de ce qu'est la planète, comme vous le dites, et il faut absolument qu'on ait vacciné le plus de monde possible pour arriver à s'en sortir.
Mais vous savez que l'ouverture des frontières, et je reviens justement à partir de votre exemple, il n'y a pas de cette quarantaine de 14 jours des gens qui viennent d'un peu partout. Ce micro-laboratoire que seraient les Jeux olympiques et le village olympique, c'est ce qui va nous rencontrer comme difficulté et comme risque.
Absolument, mais je serais quand même curieuse de savoir si les personnes qui ont été, et j'ai pas suivi les détails des athlètes, mais je serais très curieuse de savoir si les athlètes étaient vaccinés, ceux qui ont été testés positifs, parce que ça serait rassurant de savoir en fait, rassurant d'une certaine manière, de savoir en fait que ce sont des personnes qui avaient peut-être obtenu une seule dose ou peut-être pas de dose du tout, et puis, sachant que la vaccination n'est pas accessible partout encore dans tous les pays.
Quel est le grand message qu'il faut retenir avec tous ces regards, ces éclairages, ces analyses, ces tests, les différents scientifiques, les différentes approches et analyses. Quel est le message qu'il faut retenir, Dr. De Silva?
Mais en fait, le message ultime qu'il faut retenir, c'est d'aller se faire vacciner le plus vite possible avec les deux doses, indépendamment des effets secondaires qu'on peut avoir pendant 24 heures, pour pouvoir sortir de cette pandémie et revenir à une certaine normalité. Et en attendant, il faut continuer d'appliquer les gestes barrières, le masque, le lavage de mains et la distanciation pour protéger ceux qui ne sont pas encore vaccinés.
Merci beaucoup, Roxane Borges da Silva, professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Merci beaucoup.
Je vous en prie, bonne journée, au revoir.
Au revoir. On va aller rencontrer maintenant Raphaël Jacob, qui est spécialiste de la politique américaine et collaborateur ici au 98.5, parce que moi, il y a des choses que j'ai plus ou moins bien saisies, ou des contradictions, en tout cas, qui me remontent à la mémoire. Bonjour, Raphaël Jacob.
Bonjour.
Raphaël, notre premier ministre du Canada, il y a quelques semaines, disait « Nous n'allons pas nous précipiter pour ouvrir les frontières. Il ne faudrait pas mettre à risque tous les efforts que nous avons faits, que les Canadiens et les Canadiennes ont mis en place. Et les vaccins qui continuent, on fait partie du G20, on est parmi les meilleurs. Donc, on n'est pas pour briser ça en se hâtant de s'ouvrir aux frontières des autres. » C'est pas tout à fait ce qui est arrivé la semaine passée quand il nous a dit écoute, les États-Unis, ben oui, le 9, et puis où? Puis le monde, le 7. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'il y a une confusion absolument hallucinante qu'on observe des deux côtés de la frontière, à la fois du côté canadien et du côté américain depuis 8 jours. Parce que, milieu de la semaine dernière, effectivement, Justin Trudeau évoquait un désastre si on allait rouvrir, en guillemets, trop rapidement. Ça n'a pas pris une semaine qu'on a un 180 degrés total. On dit on rouvre, et non seulement on rouvre, mais on rouvre d'ici un mois aux Américains. Et donc, quand on annonce ça, on se dit que parce que le Canada a été vu très largement comme étant, ou je devrais dire le gouvernement canadien a été vu très largement comme étant l'obstacle numéro un au processus de réouverture depuis des semaines, bien, c'est une question de quelques heures avant que le gouvernement américain annonce quelque chose de semblable. Or, qu'est-ce qu'on apprend, coup de théâtre, pas plus tard qu'hier, c'est que le gouvernement américain, l'administration de Joe Biden, annonce en fait complètement le contraire. On va prolonger la fermeture de la frontière terrestre avec le Canada au moins pendant 30 jours.
Au moins avec... est important, au moins.
Exact, c'est absolument clé. Avec aucune date de réouverture prévue et aucun plan précis de réouverture non plus. Et j'ajouterais aussi ceci. C'est remarquable, le manque de communication entre les deux gouvernements, parce que cette frontière-là a été fermée à la base en mars 2020 de façon conjointe. Ça, il faut le dire et le répéter. C'est pas un gouvernement d'un côté qui a pris une décision, puis l'autre de l'autre côté qui a suivi. Les deux se sont entendus pour la fermer, et les deux, mensuellement, depuis presque maintenant un an et demi, s'entendaient et se réentendaient pour reconduire les mesures. Là, on a une désynchronisation et un manque de communication complet où les ministres du gouvernement Trudeau, du cabinet Trudeau, ne savaient même pas ce qu'allaient faire et, en fait, encore à ce jour, ce que vont faire les Américains.
C'est peut-être nous qui avons raison d'ouvrir les frontières rapidement parce qu'on est dans des conditions, évidemment, qui sont avantageuses là, quand on se compare à d'autres. La réalité, c'est que je ne pense pas qu'on soit envahi puis qu'il y a un exode américain très important. Alors, il ne s'agit pas ici de prétendre qu'on a peur ou pas peur. Ce que j'essaie de comprendre, c'est la collaboration américaine avec les Américains que nous avons eus pour toutes les décisions frontalières depuis le début. Et là, ça semble s'être estompé ou ça soit évanoui.
Oui, bien, de ce qu'on en comprend, c'est sûr qu'il y a un gros jeu de coulisses là-dedans. Il n'y a personne qui peut prétendre, là, ceux qui sont, sauf peut-être ceux qui sont presque dans le secret des dieux, là, savoir exactement ce qui se déroule. Mais de ce qu'on en comprend, il y a une autre considération majeure du côté américain qu'on n'a pas ici du côté canadien, c'est-à-dire la frontière avec un autre pays, le Mexique. Et lorsqu'il est question de la frontière mexicano-américaine, il n'est pas simplement question de COVID. En fait, je serais presque tenté de vous dire qu'il n'est même pas principalement question de COVID, il est question de crise migratoire. Et il faut comprendre que politiquement aux États-Unis, pour Joe Biden, c'est cette crise-là qui représente son talon d'Achille principal depuis qu'il est au pouvoir, depuis maintenant presque exactement 6 mois. Il faut comprendre qu'on est en train de battre des records d'appréhension de migrants qui essaient de se frayer un chemin depuis le début de l'année. On en est rendu à maintenant plus d'un million d'appréhensions. Et ça, c'est seulement les gens qui se font arrêter là à la frontière mexicano-américaine. Et donc, il y a une énorme crainte présentement que si on rouvre la frontière avec le Canada, bien là, on va mettre encore plus de pression pour rouvrir aussi celle avec le Mexique. Et ça pourrait causer des problèmes politiques au président Biden.
Donc, ça, c'est intéressant. La COVID devient le prétexte à maintenir les frontières mexicaines, américaines au Mexique, fermées, de sorte qu'il n'y a pas besoin d'adresser la question de l'immigration. C'est fermé pour d'autres causes, évidemment, que l'immigrant.
Exact. Et en fait, lorsqu'on regarde la raison officielle qui a été évoquée par l'administration Biden hier, on parle du variant Delta. Or, lorsqu'on regarde ce que les propres experts scientifiques de l'administration Biden disent, ça n'a aucun sens parce que, de un, la directrice de ce qu'on appelle les Centers for Disease Control, l'équivalent un petit peu, si on veut, de l'Agence de santé publique américaine, le dit catégoriquement. Les vaccins homologués, ou en tout cas les vaccins utilisés aux États-Unis, protègent indépendamment des variants, incluant le variant actuel qu'on appelle Delta. Et il y a aussi ceci qu'il ne faut jamais perdre de vue. Qu'il soit question de la réouverture du côté américain, du côté canadien, on ne parle que de rouvrir pour les gens qui sont non seulement doublement vaccinés, mais qui peuvent et qui vont démontrer leur preuve de vaccination.
Exact. Donc, et tester également.
Et tester négatif également. Donc, à partir du moment où les scientifiques américains qui travaillent pour le président Biden, pour l'administration Biden, disent noir sur blanc, comme ils le font présentement, que les Américains qui sont pleinement vaccinés peuvent voyager à l'intérieur des États-Unis sans mesures restrictives, pourquoi est-ce que la même recommandation ne s'applique pas pour les voyageurs à provenance du Canada? Ça n'a aucun sens scientifique. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une décision scientifique à la base.
Rapidement, est-ce que Biden, c'est le genre de président à revenir sur sa décision puis à écourter le délai?
C'est possible. Honnêtement, là, je pense qu'on navigue vraiment, vraiment dans l'inconnu. Je sais qu'il nous reste peu de temps. Je mentionnerai quand même ceci rapidement. Ça serait très, très surprenant de voir une dynamique là, unilatérale qui perdure pendant longtemps. C'est-à-dire que pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, la frontière est ouverte d'un côté et pas de l'autre. Ce serait pas impossible, mais très surprenant.
Merci beaucoup, Raphaël Jacob, de ses précisions et de ses explications. Merci.
Merci.
Au revoir. Au retour de la pause, Martin McGuire est avec nous. Ben oui, le Canadien tenait conférence de presse. Marc Bergevin a annoncé des choses. On saura tous les détails, les tenants et aboutissants avec Martin au retour de la pause.